Moi qui l'organisais pratiquement seul dans une association qui s'appelle le devant la FNAC et on avait nos enfants.
Il y a pour les jeunes, pour les hommes,
nos enfants, il y a bien
non, je ne regrette rien.
Les orienter.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est délicat.
À ce moment-là. Et j'avais comme objectif de
Rien de rien.
c'est une association qui aide pour quelqu'un qui a besoin, normalement, à donner.
C'est pareil, c'est aussi bénévolement. Parce que ça fait juste quand on dit.
Qui
oriente les femmes,
qui
s'en sort.
C'est moi qui l'organise au Sénégal,
dans la région de Thiès.
La cité,
association Femmes Progrès.
Et tout, il y a été créé. Elle fait surtout des émissions radio. Et elle a fait participation aussi.
Elle fait du chemin.
Il y a, bien sûr, c'est parti. On tous les 15 jours, le plan s'appelle comme ça.
D'avoir un avenir dans une autre entreprise. Parce que, comme je t'avais expliqué, je suis aussi la banque alimentaire.
Actuellement, je suis engagée contre la vue.
Derrière un homme, un grand homme, il y a toujours une grande femme. Gourni, Boulfate ni Mouk, l'épaule Amrek, Djigé Mouti Andr.
Je me lève à 5h du matin, je commence le travail à 6h jusqu'à 12h30. Le reste, c'est l'association. L'après-midi, ça peut être 10h, ça peut être 1h du matin. Quand les mamans ont des problèmes avec leur mari, mais ils m'appellent, je me déplace. Je vais chez elles au moment de crise pour voir ce qui se passe, parler avec leur mari et expliquer au mari ce qui va se passer après. Si on appelle la police, ça y a des papas qui ne savent pas, surtout des papas qui sont venus de l'étranger. Je leur dis qu'il y a le tribunal, ils sont au tribunal, que les enfants ils vont se placer dans des foyers, que la maman aussi. Voilà, je leur explique ce qui va se passer après et on essaye de régler le problème sans appeler la police.
On n'est pas que là que pour le nettoyage, on est aussi là pour l'écoute des locataires, ce qu'il faut savoir. Et ce qui est bien, il y a un dialogue qui s'installe, des fois il y a des conflits qu'on peut résoudre. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais il y a beaucoup de dialogue avec les gens du quartier. Le plus difficile dans le quartier, bon, c'est une minorité, hein, c'est-à-dire qu'il bon, y a quand même des jeunes avec la drogue, beaucoup qui traînent dans le parc, dans les tours qu'on fait également. Au début on n'était pas trop acceptés par les jeunes, maintenant ils ont l'habitude, ils disent « bah plus rien ».
C'est vrai que je me définis très facilement, je veux dire, par le fait de soigner. Je suis une soignante. Je crois que c'est dans ma naissance, dans mes tripes, dans ma famille. Donc ça, c'est la première chose. Je suis une maman. Ça, c'est très clair. Ça, c'est un peu la maman de tout le monde, d'ailleurs.
Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas quand même qu'on peut vivre, qu'on peut avoir des conflits entre les couples. Que voilà, l'autre part ou l'autre truc. mais arriver jusqu'à la violence, de plus en plus. Ça, je ne m'attendais pas du tout. Je ne sais pas comment l'expliquer, jusqu'à ce que le sang coule.
C'est là que je me suis rendu compte que vraiment la situation des femmes était vraiment difficile. Que ces femmes-là, c'était des femmes qui donnaient tout, absolument tout pour leur famille, tout pour leurs enfants. Ça, c'est clair. C'est vraiment le pilier d'une famille. La plupart du temps, ce sont elles qui sont les piliers des familles. C'est elles qui font le plus. Je parle que des femmes migrantes, là, que je connais. Mais c'est des femmes qui viennent de leur pays, qui ont vécu 30 ans, 40 ans dans leur pays et qui arrivent. Qu'est-ce que tu veux? Elles ne peuvent pas bouleverser leur vie comme ça. Ça va demander des années et des années, je pense, pour évoluer, tu vois. Même si elles commencent à comprendre mieux leurs droits et comment on peut leur enseigner leurs droits, leur montrer qu'est-ce que ça veut dire égalité homme-femme, etc. Même si autrement, elles disent, bah non, c'est normal, la femme, elle doit rester à la maison, l'homme, il travaille et la répartition des rôles, elle est bien définie chez elles, tu vois. Mais aussi, ça me permet de rester humble par rapport à ce que... Même par rapport au travail, je me dis que c'est un travail... de tout le temps, de tous les instants à faire, et qu'il faut toujours continuer, et continuer à les aider en permanence, tu vois. C'est des femmes invisibles.
Mais il y a des problèmes ou des difficultés qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Il faut qu'on ait une personne de confiance, qu'on peut venir soumettre comme si c'était une maman. Moi, je pense que je suis la place d'une maman, d'une grande sœur aussi, qui est là, qui est à l'écoute des gens, et qui garde... Tout ce que les gens viennent me voir, je rencontre différentes personnes, différents problèmes, différentes choses, mais il faut que ça reste confidence. Je suis une confidente aussi. Elle rentrait du travail, elle fait des ménages. Et à chaque fois qu'elle rentrait, son mari était alcoolique. À chaque fois qu'elle rentrait, son mari la prenait devant la porte. Tu traînes où? Tu es avec qui? Tu es avec Dorky? Tu es tout. Elle dit, s'il te plaît, ne me fais pas de mal. Je ne fais rien, je cours les bus. Je cours le truc, des fois je raconte, s'il te plaît. À chaque fois. Et ce jour-là, je pense qu'elle en avait marre. Et elle n'en avait jamais parlé. Mais quand le jour qu'elle a sonné devant ma porte pour me dire que je suis tuée, il est violent à ce point. Khadija, c'est tous les soirs quand je rentre du travail. Tous les jours quand je rentre du travail, c'est ça. Il me prend par la gorge. S'il me tape, il me tape, je crie, je truc jusqu'à ce qu'il me lâche. Dis donc. Et tu as supporté ça, tout ça. Mais je voulais le couvrir, je ne voulais pas aller tout. Mais là, je ne peux plus. Donc, d'accord, je dis d'accord. Tu viens là, tu dors là. Jusqu'à demain, je vais essayer de trouver mes contacts pour qu'on puisse faire quelque chose. Alors, j'ai appelé un protestant, c'est accueil des femmes. La directrice m'a dit de venir parce que j'ai eu des cas avec elle. Je suis allée, je lui ai présenté la femme. Je lui ai dit, c'est à vous maintenant de faire votre travail et de prendre le relais.
Le gros problème de ce qui reste ici dans la cité, c'est que les loyers sont trop chers. Énormément chers. Il y a beaucoup de gens qui vont savoir, qui vivent avec le RSA, que le loyer est de 500 et quelques, alors que le RSA, il n'est même pas à 500. Voilà. Alors... Mais moi, je trouve quand même qu'ils sont quand même là parce qu'ils ont quand même toujours le sourire et ils essayent toujours de se battre. Quoi.
Les personnes qui viennent de l'étranger, pour eux, c'est le rêve. Ils veulent changer de vie. Ils arrivent ici, mais ils se retrouvent en difficulté encore pire que parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de logement. Alors, ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir, mais nous, on n'a pas de solution. On peut les aider à acheter à manger, appeler les foyers. Et c'est souvent, il n'y a pas de place, surtout le 115. Et seulement, je demande aux gens que je connais s'ils peuvent les loger un jour ou deux. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ou ça m'est arrivé d'héberger un jeune mineur pendant 15 jours. Et ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, mais c'est impossible de laisser ces gens à la rue, surtout des jeunes filles, il y en a beaucoup.
Moi, souvent, on dit au jardin ou l'association, arrête de prendre des risques. Vous ne comprenez même pas ce qu'ils me disent. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas. J'ai le vécu d'ancienne urgentiste. J'ai prêté serment. Ce que je peux faire, comme dit ma grand-mère, ce que tu peux faire, fais-le. Et c'est vrai que les risques, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Ça, c'est clair. Mais je le fais. Et je veux dire, je ne passerai jamais à côté. Si j'ai vu, je ne me permets pas de faire semblant comme si je n'avais pas vu. Le fait d'avoir aidé Vartan, il en reste la vie.
Parce que ça risque de tout coûter très cher. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas me mettre ce stress. C'est un vrai stress et il faut vraiment avoir envie. Il y a des gens dans le collectif que j'admire qui font ça. Mais moi, je préfère faire ça de manière plus tranquille.
Ces deux mots, délit et solidarité, mais ça m'a fait un vrai choc. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut parler de délit, de solidarité? Ces deux mots complètement opposés. Je me dis, mais ça rend un humain ou une société complètement schizophrène. C'est grave, c'est terrible. La solidarité n'a jamais été un délit. Et un délit, c'est quelque chose qui est morbide, quelque chose qui est criminel, quelque chose qui va dans le sens de la mort, quelque chose qui est... Donc c'est complètement fou. Là, c'est pour moi une société de folie.
Je ne peux pas les laisser comme ça. Je prends le risque, je ne sais pas. Mais de toute façon, qu'ils me disent... Fais-le ou à le faire, je le ferai quand même. Impossible. J'ai ça dans le sang et je ne peux pas. Impossible. Je ne m'en rends pas compte. C'est la question que je me pose. Tout le temps, presque tous les jours. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Moi, je le fais, mais je ne sais pas si j'ai le droit ou pas.
Donner plus de place, plus d'autorité aux femmes étrangères. Plus de regard sur ces femmes étrangères. Qui ont des talents, il ne faut pas dire qu'on est étranger, qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas, tu viens avec tes diplômes, on te dit tes diplômes, on ne les reconnaît pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire que du ménage. Et tu étais secrétaire, tu étais assistante de direction, tu étais infirmière, tu étais truc, mais tes diplômes ne sont pas reconnus. Donc, qu'est-ce qu'on te dit quand tu vas pour l'emploi? Ben, les fois, voilà, on vous donne du ménage à faire. Parce que les femmes étrangères, on ne les donne pas, on n'a pas tout le monde.
Elle me permet de réaliser quelque chose auquel je crois, je pense, que c'est d'essayer d'avancer ensemble, d'aller vers un meilleur vivre ensemble, d'aller vers une meilleure compréhension et de ne pas rester chacun dans son chez-soi. Je crois qu'elles m'accueillent toujours bien parce qu'elles savent aussi que je ne suis pas en train de leur demander quelque chose et je ne leur demande rien de particulier. Si elles ne peuvent pas, elles ne peuvent pas. Maintenant, j'ai aussi appris ça. Parce que si tu veux, ce que je vois, les autres, ils disent, mais elles nous doivent bien ça. Mais non, elles ne nous doivent rien. Et nous, à la limite, peut-être qu'on leur doit plus qu'elles ne nous doivent. Ouais.
J'ai envie d'aider. Je suis née dans une famille solidaire. J'ai grandi dans la solidarité, dans la famille, mais pas comme des cas ici. Mais j'ai vu que dans la famille de ma grand-mère, il a hébergé n'importe comme personne qui était dans le besoin. Même que tu venais, on te donnait une natte ou des trucs, on te donnait un bol de riz, tu mangeais, tu dormais dans la cour, dans la véranda, tu peux dormir comme ça. Donc j'ai vu ce que faisait ma grand-mère dans la solidarité.
J'ai toujours travaillé, hein. Depuis l'âge de 14 ans. On a construit une maison pour ceux qui sortaient de prison. J'avais 14 ans. Mais c'était formidable parce qu'il y avait une entraide, il y avait une personne qui était destinée à faire la cuisine pour 30 personnes. J'ai des soupes, on était dans le froid, mais hein, j'oublierai jamais. Mais pour moi, c'était magnifique. C'était quelque chose qu'on avait bâti nos mains. On avait réussi à faire quelque chose pour eux. Et cette maison, on avait tout réussi à faire. Et puis, c'est vrai qu'on se chauffait avec un gros feu à bois. Et la maison, elle a pris feu.
El Hayat Jamila, la vie est belle.
Elle me raconte son pays enfoui, celui qu'elle a choisi, le pays des lamas et du dieu soleil qui, depuis longtemps déjà, est mort sous les coups des conquistadors. Elle s'éclaire quand elle dit « Là-bas, j'étais heureuse ». Elle repense aux montagnes et à la lumière qui descend lentement de cette manière si singulière au creux de l'Amérique du Sud, le soir, vers 5 heures. Elle me décrit la maison aux colonnes, comme des colonnes grecques. C'est comme ça qu'elle s'en souvient, une maison de colonnes accrochée dans un village andin, le village de son mari. Et puis, tout de suite après, elle me dit « Je suis étonnée que tu ne m'aies posé aucune question sur ce que j'ai fait avec les Sahraouis. Elle passe ainsi d'un continent à un autre. C'est elle qui fait le lien. Des Andes aux déserts africains. Il n'y a qu'un pas pour elle. Michel Serre, qui vient de mourir, avait dit une fois, je l'avais entendu, « Pour devenir philosophe, il faut voyager. » Ben, à sa façon, elle, c'est une discrète philosophe. Car c'est de ses voyages qu'elle tire ce si grand attrait pour ce qui n'est pas comme elle. « Je suis née pas loin d'ici, » dit-elle. « Assez, tu connais ?»« Oh non, 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 je ne connais pas. » »« Mon père était lorrain et ma mère alsacienne. » Mais alors, me dis-je sans lui dire, et qu'es-tu donc allée foutre aux quatre coins du monde ? Elle n'entend pas ma question, mais elle me répond quand même. Elle est allée chercher ce qu'elle ne savait pas. Je suis allée soigner. J'étais étudiante en médecine, j'ai décidé un jour d'aller voir MSF, j'avais vu des affiches dans le métro, et puis je suis partie là-bas, auprès des Sahraouis. J'ai fait cela toute seule. Je me suis occupée seule d'une épidémie de coqueluche dans les camps, et j'y suis arrivée. Les camps. Jean Genet disait « La France est un pays qui passe d'artiste en artiste. » Et s'il était vivant aujourd'hui, peut-être que Jean Genet dirait « La Terre est un monde qui passe de camp en camp aujourd'hui. » Lorsque, sur mon vélo, je rejoins le centre-ville de Strasbourg en partant du Neuhof où je suis logée actuellement. Sur ma route, la rue du Polygone, il y a un camp. Un tout petit camp de Roms. Il est planté là, juste à côté d'un café. Il déborde dans la rue, puis de l'autre côté de la rue, puis devant l'hôpital. Ceux qui y vivent ont été chassés de leur ancien camp et alors illico, ils ont planté leur tente bien en vue pour qu'on les remarque. Le camp jouxte le café, le touche, le caresse presque. Le café a une petite terrasse cosy, je n'y vois que des hommes. Est-ce que ceux du camp peuvent venir boire un coup ? Me demandai-je. De l'autre côté, un peu plus loin, il y a un autre café, avec une autre terrasse. Un jour, je m'y arrête, il fait très chaud. Je demande au monsieur algérien qui tient le bar un grand verre avec du sirop de menthe et du sirop de citron mélangé et beaucoup de glace. Le monsieur rit, me présente un énorme verre, fait le mélange, verse l'eau à ras-bord, puis il fait glisser ses glaçons. Je bois, goulue, gourmande, assoiffée, et je croque les glaçons, ça crisse, ça clingue sur mes dents, ça descend dans ma gorge, ça fait du bien, j'aime ça. Et puis je veux payer. Mais merde, j'ai oublié mon porte-monnaie. Je demande au monsieur s'il prend la carte Visa. Non. Je vais aller chercher de l'argent à la tirette alors. Non, me dit-il. Vous repasserez me payer quand vous aurez de la monnaie. Demain, après-demain, la semaine prochaine. J'y crois pas. Je le regarde. Vous êtes sûr ? Oui, oui, je suis sûr. Et je le connais pas, moi. Il ne me connaît pas. Je ne sais pas d'où il vient, je sais simplement qu'il a un accent algérien. Je reconnais les accents. Je reconnais les pays dans les sons que produit le français dit par ceux qui viennent d'ailleurs. Et là, je reconnais simplement la confiance. La confiance. Oui, la confiance, dit la discrète philosophe. Elle reprend son récit sous le feu de mes questions. Ici, oui, je fais ce que je peux, oui, avec les femmes, les Tchétchènes, les Arméniennes, les Marocaines, les Russes. Je donne des cours de français, mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les cours de cuisine. On fait la cuisine ensemble, on aime ça. Elles m'ont acceptée, elles m'ont accueillie, peut-être parce que je ne leur demande rien. Je fais avec elles et maintenant je comprends, j'ai commencé à comprendre. Quoi ? Qu'a-t-elle compris ? En s'occupant des autres, elle s'occupe d'elle-même. Oui, mais pas que. Non. Elle comprend. Elle comprend. Hannah Arendt, qui est aussi philosophe, disait « penser ». Penser, c'est vivre. Est-ce qu'on agit quand on pense ? Est-ce qu'on pense quand on agit ? Alla Meno, la discrète philosophe, est arrivée dans un monde d'hommes. Il a fallu insister, persister, bousculer pour faire sa place, pour organiser ce qu'elle voulait organiser avec les femmes, les étrangers, les autres. Très peu encouragée par ces hommes qui prenaient toute la place, elle y a fait son trou. À quel prix ? Elle ne le dit pas vraiment. Simplement, elle me glisse à l'oreille que c'est toujours difficile parce qu'elle a l'impression que pour eux, elle n'est jamais à la hauteur. Mais elle insiste, persiste et reste. C'est sa force tranquille, sa détermination. Sur l'esplanade devant Pôle Sud et le centre socio-culturel. Une femme très belle passe. Elle a le voile savamment noué autour de son visage. Oh, la classe ! Elle est la reine du béton et la reine du ciel. Elle avance. L'esplanade devant Pôle Sud est vide. Il est 2h de l'après-midi et elle marche sous le soleil. La terre de la Meno est à elle. Sous le goudron, il y a un jardin. Et au bord du jardin, la mer s'étend jusqu'à une autre rive. Peut-être la rive du pays d'où elle vient. Elle est née dans la ville blanche sur les bords de l'Atlantique. La ville des rues brèves et tortueuses et des toits terrasses qui font passage. Est-ce qu'on pourrait passer de toit en toit à Casablanca ? Me dis-je. Et traverser ainsi la ville jusqu'au désert. La reine entre dans son royaume. Il est fait principalement de femmes, assises autour de tables dans cette petite salle du centre social qu'on leur accorde une ou deux fois par semaine. Quelques heures, elles discutent, elles rigolent. Chacune différente. Elle, la reine, elle dit « tous les mardis, elles viennent ». Il y en a de partout, elles viennent, elles veulent être là, discuter, parler. Oui, oui, ça les aide, je crois. Elle dit « moi, je suis arrivée en France. Ici, je ne connaissais personne et il n'y avait rien pour les femmes à la Meno. Il y avait des associations d'hommes, oui, des associations pour les jeunes, pour l'aide scolaire, etc. Mais il n'y avait rien ici pour les femmes. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai créé l'association. Association. Ce mot à la Meno, je l'entends, mais partout. Je l'entends tellement qu'il se dresse parfois comme un mur entre moi et les gens, et peut-être entre les gens entre eux. Ça pourrait être un joli mot, association. Et ça devient un mot écran. On ne voit plus les gens derrière, on ne voit plus rien que le mot qui perd son sens et qu'on a envie de démantibuler tellement il est prononcé comme un laissez-passer, un passeport, un papier administratif, une frontière. Oui, une association, elle doit rendre des comptes, elle peut être contrôlée, on sait où elle est, on sait qui la dirige, on sait ce qu'elle fait. Il y a des gens responsables qu'on peut punir s'ils deviennent irresponsables. Tu veux faire quelque chose ? Bah alors fais une association. Le mot est lâché, instrumentalisé, rangé dans une cage. Bien rangé, modelé, formaté, rien qui dépasse, rien ne peut dépasser. Je m'en fous des associations. Bon, ok, il en faut. Alors, je vais passer par les associations. Oui, mais les gens derrière, les femmes qui se démènent chacune à leur façon, les femmes qui relèvent la tête en même temps que leurs manches, les femmes qui disent non. Un week-end, dans un parc somptueux, les associations humanitaires de Strasbourg s'y exposent. Je rentre dans le bâtiment, les tables y sont alignées, association pour les femmes, association pour l'Afrique, association pour les dons d'organes, association pour le Nicaragua, MSF, association pour le commerce équitable. Derrière les tables, il y a des gens. Ils attendent qu'on leur parle. Ils sont sages et aussi rangés que les tables. Je passe et je ne parle pas. Et tout d'un coup, j'ai envie de danser et de sauter de table en table, comme j'aimerais sauter de toit en toit à Casablanca, à la ville blanche. J'ai envie de défaire les tissus et de m'entraper, de m'accrocher à un mât et de dire le texte de Claudel. Fixons, je vous prie, les yeux sur ce point de la Méditerranée qui est à quelques degrés au-dessous de la ligne, à égale distance de l'Europe et du Sud. On a parfaitement bien représenté l'épave d'un navire dématé qui flotte au gré des courants. Oui, dans cette nuit, sur ce radeau, dessous ces horizons glacés, au cœur des abris frissonnants, des camps et des bivouacs détruits à chaque instant, recommencés toujours en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, en terre des Caraïbes et autres Amériques, ce qui se passe déclenche dans les géographies du vent, en étincelles de sel, en étincelles de ciel, une étrange conférence des poétesses. Toutes les grandes constellations, la Grande Ourse, la Petite Ourse, Cassiopée, Orion, la Croix du Sud, sont suspendues en bon ordre comme de gigantesques panoplies autour du ciel. Je pourrais les toucher avec ma main. À la proue du grand mât s'élève une femme, comme vous voyez, extrêmement belle. Elle paraît être une reine. Son foulard flotte dans le vent. La voici qui parle comme il suit. Ici, la méno, mi-roche, mi-torche. Mais c'est elle qui va parler. Écoutez bien. Ne toussez pas. Et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant. Et c'est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle. Alors, la reine parle. Elle dit... Ici, la méno, mi-roche, mi-torche, elle soupire, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bien sûr qu'elle sait. Mais bien sûr qu'elle pense. Elle se rappelle que quand elle est arrivée en France et qu'on ne lui a pas validé son diplôme de haute couture, qu'on lui a fait comprendre qu'elle ne valait rien ou pas grand-chose, qu'elle devait se fondre dans la masse des pauvres. Elle se rappelle de cela, il y a 20 ans déjà, mais elle ne s'est pas dégonflée. Si on la sort par la porte, celle-là, elle revient par la fenêtre. Ça n'a pas été facile. Elle a créé son association. Il a fallu se battre, apprendre, regarder, parler, s'allier, défendre, repousser, formuler, inventer, tisser, répondre, ne pas avoir peur. Elle l'a fait, au su et au vu de tous. Et les femmes l'ont suivie. Elles sont venues. Elle ne savait pas, la reine, que l'espace qu'elle avait ouvert, avec ses petites mains, sa petite tête, allait être un espace infini, un puits sans fond, et que jour après jour, par le bouche à oreille, les femmes de la Méno allaient se donner le mot. Oui, le nom c'est espoir, pas un mot choisi par hasard. Espoir, une femme, une reine, ouvre le local d'espoir, une chambre d'espoir. Il faut y aller. Alors ces femmes, venues de partout, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord, ces femmes enfermées dans leur tombe noire de la solitude, ces femmes qui prennent des coups tous les jours, elles ont vu une chambre s'ouvrir pour elles. Elles sont venues à pas de loup. Elles sont d'abord restées dans l'ouverture de la porte, puis elles ont avancé d'un pas, puis de deux, et les voilà, chaque mardi, les voilà qui réapprennent à parler dans des langues improbables, mélangées, pour se dire de petites choses d'abord, puis petit à petit livrer le fond du fond, du fond, du fond, du fond, du fond. Une boîte à chaussures à l'entrée sert de boîte aux lettres pour celles qui n'osent pas dire tout haut ce qui les amène ici. Des petits mots y sont glissés. Partir ? Rester, mourir, quoi faire? Mon mari me bat tous les jours, aidez-moi. 30 ans en France, mon mari ne me laisse pas sortir, je ne sais pas me débrouiller toute seule, aidez-moi. Mon mari m'a agressée physiquement quand il a su que je faisais du covoiturage avec deux hommes pour aller au travail parce que je n'avais aucun moyen d'y aller. J'ai porté plainte, mais c'est lui qui a eu gain de cause. Ma belle-sœur a témoigné contre moi. Étant très malade, je suis seule. Mes enfants sont en internat, mon mari est très souvent absent. J'ai rencontré l'association Espoir. Merci. Ma mère se fait taper tous les jours. Aidez-nous! Si je pouvais tuer mon mari, je l'aurais fait même si l'islam me l'interdit. Il me rase les cheveux, me brûle avec des cigarettes. Besoin d'aide. Signé Marie. C'est possible de faire quelque chose. Alors elle laisse son téléphone ouvert nuit et jour et dès qu'on l'appelle, elle arrive. La nuit, parfois à 2h du matin, elle frappe à la porte. Le mari ne veut pas la laisser entrer. Elle entend la femme qui pleure derrière le mur. Alors la reine parle, tout doucement d'abord. Elle gratte à la porte comme un chat et dit au mari « Ouvrez-moi, cela va s'arranger, je vous le promets. » Elle attend, parfois pendant des heures. Déjà, elle a fait cesser les coups. La femme derrière la porte pleure, mais le mari ne la frappe plus. C'est un temps de gagner. Comme cela, on avance, de temps en temps. Elle parle à travers la porte. Elle n'arrête pas de parler. Et puis, enfin, la porte s'ouvre. « Ce n'est pas vos affaires !» dit l'homme. « Non, ce ne sont pas mes affaires, mais laissez-moi entrer et on va parler. Laissez-moi !» Elle met un pied dans l'entrebâillement de la porte. Il se recule. Elle entre. La femme est dans le salon, au fond, la tête entre les mains. Elle s'y dirige, prend la femme par les épaules et la berce doucement. Elle s'assoit à côté d'elle. Elle demande à l'homme de venir, de s'asseoir. Il refuse. Il reste debout. S'entame alors un très long dialogue. Le ton monte parfois. Puis revient au calme. Pour cette nuit, elle trouve les mots. La situation se dénoue et redevient normale, si tant est qu'elle puisse être normale. Une nuit de gagner pour cette autre femme qu'elle-même. Une nuit, c'est déjà ça. La reine s'en va, retourne à son lit, à son mari, à ses enfants, pour quelques heures, avant de se lever à 5h du matin pour aller à son travail. Dans la vie, elle est agent d'entretien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce à toi de faire ça, ma reine? Oui. Et non. Eh oui. Et tu le fais. Qui pourrait en dire autant? Agir. Action. Dans cet instant du monde, tout se détraque. Il faut vivre, n'est-ce pas? Ici, à la Méno, il y a des rues droites, des pistes cyclables. Ici, à la Méno, on roule et on marche. Et les voitures tonnent, et les motos rugissent, et les arbres sont abattus. Et sur les chantiers, les monstres mécaniques labourent, creusent, écorchent, posent des pierres, et écoulent la lave de béton et de colle, et montent, et élèvent des bâtiments. On dit que c'est pour un avenir meilleur, sans amiante, sans taudis. On dit que ces immeubles qui prennent leur nouvelle place vont amener du calme et de la joie. Bien sûr, il faudra les payer, mais pour l'instant, on dit que c'est pour tout le monde. On dit que le quartier va mieux, qu'il se gentrifie, qu'il va y avoir un mélange de population, que ça va être du vivre ensemble. Mais que feront ceux qui ne peuvent pas payer? Est-ce qu'on leur donnera de l'argent pour qu'ils payent? Ou devront-ils s'en aller plus loin, jusqu'à disparaître? On dit que non, cela ne se passera pas comme ça. On le dit, il faut faire confiance, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord, alors allons-y. On dit que mieux vivre dans un appartement, ça fera qu'il y aura moins de violence. Est-ce que les hommes ne taperont plus les femmes? Est-ce que les migrants du camp auront un appartement? Est-ce que les papiers seront moins difficiles à remplir? Est-ce que les enfants pourront jouer dehors? Est-ce que les écoles leur apprendront que la vie est belle, qu'elle est faite des autres, de ceux qui sont différents de soi-même, et qu'avec eux, on pourrait inventer un autre monde, qu'on peut choisir sa vie. Il y a un conte qu'elle me raconte. Elle, c'est une fée cassée, une jolie fée aux os brisés. Il était une fois une femme qui soignait les autres. Cette femme soignait partout où elle allait. Aux urgences, dans la rue, sur son palier, elle allait de pays en pays. Elle était née à Strasbourg et connaissait l'Allemagne et la Belgique. Elle circulait pour soigner et rencontrer. Elle voyageait et soignait. Elle savait faire. Elle réparait les corps. Elle envoyait des corps. Des centaines de corps. Des vieux, des jeunes, des mal foutus, des beaux, des tordus, des corps de déesse, des corps meurtris, des corps désarticulés, des corps sensuels, des tout froids, certains trop chauds, des rigolos, des bizarres. Elle y mettait ses mains, elle avait les bons gestes, elle touchait, elle ouvrait, elle piquait, elle bandait. Un jour, dans un hôpital où elle était employée, elle a glissé et est tombée. Comme ça, glissée et tombée. Pas pu se relever, allongée sur le sol, mal, atrocement mal. La colonne brisée, la tête dans les choux, plus de souvenirs, rien ne revenait. Le nuage, le gris, s'est retrouvée au lit, longtemps, longtemps, plus bouger. Était donc venu le temps où d'autres s'emparaient d'elle, de son corps, pour y mettre leurs mains, la toucher, la piquer, la bander. Petit à petit, elle s'est réveillée, a recommencé à bouger. Oh, très peu d'abord, hein, très peu. Et puis, un bras, une jambe, se mettre debout, les béquilles avancer, un pas, puis l'autre, comme ça, tout doucement, vint le moment où elle a pu remarcher, retrouver un peu de vie, un peu de souffle. Seulement, la douleur ne la quittait pas, jamais. La douleur était comme un sale animal tapi dans l'ombre qui surgissait dès qu'on l'oubliait. Alors cette fée, je l'ai trahi. La femme du comte, elle s'est mise à labourer la terre sous le béton de la méno, régulièrement, dans un petit jardin derrière l'église, et a planté. Ce jour-là, la fée, dans le jardin derrière l'église, avait pris trop de temps à s'occuper de petites pousses de lin qui pointaient leur nez fragile vers le ciel, et elle était fatiguée. Aussitôt, la douleur se fit immédiatement reconnaître en plantant ses dents plus brutalement que d'habitude derrière la tête de la femme. Celle-ci émit un cri. En face du jardin, de l'autre côté de l'avenue de Normandie, il y avait un café d'hommes, un PMU, le genre de café que jamais la femme ne fréquentait. À l'aide de ses béquilles, elle traversa la rue pour y entrer, s'asseoir et se reposer. Un homme la vit souffrir. Il s'approcha, il avait un accent d'Algérie, et il lui proposa de l'aider. Tout d'abord, la femme, polie, ne lui prêta pas réellement attention, mais il insista, lui demandant de lui faire confiance. La confiance. Il lui dit simplement qu'il pouvait lui faire rencontrer un étranger qui pouvait l'aider. Sans trop savoir pourquoi, elle accepta et rendez-vous fut pris. L'homme algérien lui présenta l'étranger, un russe. Celui-ci ne parlait pas un mot de français. Elle comprit cependant que cet homme était dentiste en son pays et pratiquait aussi la médecine chinoise. Il lui prit le poignet. Et de ce contact, tellement simple, tellement précis, surgit une évidence. Cet homme, ce Russe, pouvait la soigner, car dans la seconde où il se saisit de ce poignet, la vilaine douleur fit un bond en arrière et la fée cassée se redressa. S'ensuivit pendant 3 ans des rendez-vous réguliers où tranquillement l'homme a posé ses mains sur le corps cassé et peu à peu il eut raison de la folle douleur qui peu à peu se mit à reculer jusqu'à presque disparaître. L'homme russe, aux mains si douces, vivait dans la rue. Il était sans papier, sans logement, sans travail, dit migrant, destiné à se fondre dans la masse, à disparaître avec les autres sur les routes de l'asile, cet asile château fort dont les douves infranchissables prenaient l'allure du Styx, le fleuve de l'enfer, vous voyez ? L'homme russe ne se plaignait jamais. Il soignait la fée cassée et jour après jour, celle-ci se remettait debout. Pour le payer, elle trouvait le moyen de l'aider, de petits gestes, ce qu'elle pouvait, mettre en contact, trouver des petites solutions, faire de petites démarches, nouer des liens, jusqu'au jour où l'homme, ayant fini son travail, disparut dans la nuit du monde des vivants. On ne sait pas où il est. Fin du conte. La fée, depuis ce jour, a moins mal, et elle recommence à soigner les autres, autrement. On se réfugie chez un réfugié. C'est bon d'être accueilli par un réfugié. Ça remet les idées en place, dans le bon ordre, et on est plus libre. Catherine, j'ai 59 ans. Je bois la tasse. Je n'arrête pas de boire la tasse. Je circule dans la méno comme un poisson dans un bocal. Je voudrais être le poisson du Baggersee. Mais je suis un poisson qui boit la tasse, un vilain petit poisson. Je ne connais pas ce quartier. Je ne suis pas de la méno. Les rues sont vides et pleines d'espoir et d'histoire. J'en ai vu des quartiers dans le monde. J'ai vu aussi des villes debout qui maintenant sont détruites ou des villes détruites qui se sont remises debout. Je me souviens d'un char, Place des Martyrs à Beyrouth, au Liban, en 1996. Il était couché sur le côté, comme le théâtre d'une guerre à peine terminée, exposé, mort, gros poisson de fer, mort, au milieu de la place. Pour traverser la place, il fallait passer par deux checkpoints. L'un tenu par les Syriens, l'autre tenu par les Libanais. Et montrer patte blanche, tendre ses papiers. On passait ou on ne passait pas, c'était au bon vouloir du militaire ou du milicien qui tenait le checkpoint. Moi, j'avais un passeport français et je passais toujours, bien sûr. Immunité occidentale oblige. Aujourd'hui, j'ai un passeport qui ressemble à l'ancien, sauf qu'il a grandi. Il s'est élargi, il a déployé ses tentacules, il englobe maintenant plusieurs terres et quelques mers, plusieurs langues. Il est européen ! Et il me donne le même privilège. L'année dernière, à la frontière italienne, je n'ai eu qu'à le brandir. Ils ne l'ont même pas ouvert, ce petit livret rouge et magique, alors que sur le bord de la route du côté italien d'où je venais, s'amassaient des dizaines de personnes refoulées à l'entrée parce qu'elles ne possédaient pas de passeport. Elles étaient déjà parvenues à passer entre les barbelés de plusieurs frontières d'Afrique, à glisser entre les vagues de la Méditerranée mortifère, mais elles étaient maintenant condamnées à l'errance pour un temps indéterminé sur le sol italien qu'elles ont eu l'audace de fouler sans passeport. Je marche dans la méno et je pense au passeport, au char couché et au poisson du Baggersee. Je marche dans la méno et me dirige vers la rue de Champagne, où tout à l'heure je serai reçue par la magnifique qui me fera asseoir tranquillement dans la pénombre de son salon. J'y serai bien parce que je saurai que la parole de cette femme qui me reçoit, qui prend le temps de s'adresser à moi, sera calme et bienveillante. Elle aura vêtu une robe bleue, aussi bleue que la mer qui nous sépare de son continent. Elle me racontera qu'elle aussi vient de loin, de très loin, qu'elle a fait le voyage il y a presque 30 ans, dans des temps où il était encore possible de voyager sans peine pour rejoindre son mari, à une époque où la couleur de certains passeports n'était pas rédhibitoire pour passer les frontières et où les 5583 kilomètres qui séparent Dakar de Strasbourg se faisaient en avion et non à pied, comme maintenant, à travers les déserts. Elle me dira combien elle s'est sentie seule en débarquant en Alsace et comment elle a cherché du contact. Elle me racontera le moment où elle a décidé de prendre les choses en main, d'accompagner des femmes plus fragiles qu'elle pour les aider à faire du chemin, à devenir autonome, à apprendre le français, à se débrouiller ici. Puis elle reviendra au présent avec une certaine inquiétude. Et soudain, elle rentrera dans le détail. La violence. Cette violence insensée des hommes qui se déchaîne sur les corps féminins et qui ne fait qu'amplifier depuis des années. Ces histoires, jamais les mêmes, toujours les mêmes, sur le palier commun, dans l'immeuble d'en face, trois rues plus loin, à cinq pâtés de maison, partout, elle me décrira par le menu sa manière d'approcher et d'agir. Elle me fera pour moi seule un petit théâtre et je l'écouterai. Et je l'écouterai comme une spectatrice passionnée accrochée aux lèvres de la récitante. J'aurai l'impression qu'elle chante pour ne pas me faire peur, pour adoucir un peu les horreurs qu'elle me raconte, qu'elle chante pour déjouer la fatalité, la repousser, la rouler comme on roule un tapis dans un coin, qu'elle chante aussi pour me tenir éveillée, pour que je me rappelle qu'à côté, tout près, certaines femmes ne chantent pas, qu'elle chante pour que jamais je n'oublie qu'il faut chanter, qu'il faut raconter les histoires, les navires, les vents contraires, les maisons couchées, les cendres des mortes, mais aussi les sourires qui renaissent, parce qu'une main, même une toute petite main, s'est tendue, et que les muscles de dizaines, puis de centaines de bras se sont gonflés comme les bouées d'un zodiaque et ont construit des ponts mobiles, pas des frontières, des ponts! Lorsqu'il y a quelques jours, je rencontre la solaire qui vient de partir. La blonde solaire. Je lis sur son visage tous les pièges qu'elle a dû éviter. Mais son corps se tient solide et elle sourit. À quoi bon se plaindre ? Aujourd'hui, il faut respirer. La Méno, c'est la Méno. C'est là où elle est née. Elle vit et elle travaille et c'est à cet endroit qu'elle a décidé de distribuer son sourire en même temps qu'elle ramasse les déchets des autres dans les rues, les cages d'escalier, les paliers, les bureaux, les laboratoires, les trottoirs. Elle sourit parce que de l'autre côté des montagnes de poubelles, amassées chaque jour, elle s'efforce de regarder les gens. Et lorsqu'elle sourit, elle distingue à travers le plastique, derrière les seringues, derrière les cacas, derrière les bouts de ficelle, derrière les mégots, derrière les crachats, derrière les meubles brisés, elle distingue de la vie. Elle n'a pas d'illusion, hein. Elle sait que la machine à broyer les humains en bien des endroits fait son œuvre. Mais ce qu'elle sait aussi, par expérience personnelle, c'est que le désespoir n'est pas toujours vainqueur. Et qu'en se tenant debout, quand on a la force de se tenir debout, on peut, pas toujours, hein, mais parfois, inciter les autres à se redresser. Et elle rigole, la solaire, et elle me regarde à mon tour comme elle regarde les autres, c'est-à-dire au fond de moi. Elle sait qui je suis, moi, l'artiste qui se balade et qui a beau jeu de frôler les misères sans risquer de toucher le fond. En parcourant les rues de la Méno, je pense à elle et je me souviens aussi des cités d'Aubervilliers où j'ai vécu il y a 35 ans, parmi mes potes et mes potesses, certains désignés comme immigrés de la seconde génération et d'autres comme petits Français de souche, tous soupçonnés de délinquance dès la naissance pour être nés en périphérie, en marge, en banlieue. Je me souviens qu'on a fondé notre troupe de théâtre pour se tenir debout et porter haut et fière la bannière de notre mélange, de notre mixité, de notre métissage, de notre liberté aussi. Je ris en me rappelant ça, parce qu'on pensait alors que le théâtre et l'art en général avaient cette capacité de changer le cours du monde, même un tout petit peu, et que pour cela, il fallait simplement ouvrir les portes et dire aux gens de venir. Je ris d'avoir pu penser une si grosse bêtise. Car la chose que nous n'avions pas imaginée alors était que la furie du monde allait pour un temps, du moins, avoir raison de nous. Et au lieu de s'ouvrir, j'ai vu les théâtres se fermer, se bunkériser, se replier sur eux-mêmes, comme tout le monde, et prendre au mot le gros mot diffusé partout comme un poison, « sécurité », devenu maître mot d'une société malade, le mot qui sépare, qui rend méfiant, suspicieux, sourd à l'autre, le mot qui dresse les murs visibles et invisibles, le mot qui crée les checkpoints, le mot qui contrôle, qui ferme les portes, qui éloigne plus encore les cités des centres-villes, la périphérie du centre, et laisse la place à la défiance. Et tout le monde a accepté que nous soyons sous les ordres de ce mot « sécurité ». Les artistes, comme les directeurs de théâtre, comme toutes les institutions sociales, culturelles, politiques, juridiques, le mot « valise » remplit sa fonction de détraqueur social. Et quand c'est sacrément détraqué, tout claque, tout part en craque, en vrac, on plaque, on raque, on sac, on devient flaque. Et il en faut des philosophes discrètes, des reines, des magnifiques, des fées, des solaires, pour défier la défiance et aux autres faire retrouver confiance. Et la magnifique chantera, chantera, chantera pour me dire que ça lui est finalement facile de faire ça, parce que des combats vont être gagnés, qu'on les gagnera malgré tout. Malgré tout, voilà tout. Pardon. Bravo à vous, les filles! Wow! 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 Merci. Merci. Bon, alors, le pot est ouvert. Il y a un peu de vin, il y a un peu de jus d'orange. Je pense que, Laurine, je veux remercier beaucoup. Beaucoup, Jean-Marc, évidemment, mon camarade et néanmoins ami. On l'a fait ensemble. Laetitia, qui nous a accompagnés techniquement tout le temps. Et Laurine, qui est étudiante en scénographie et qui a conçu avec moi cette installation. Aziza, Khadi, Anonyme Odile, Evelyne et évidemment Christelle qui vient de partir, je vous embrasse tellement fort. Peux boire. Si vous voulez autre chose que de l'eau, du jus de citron, etc., il y a du jus d'orange. Il y a du vin blanc, et voilà. Et avant de rejoindre endroit, on peut parler, on peut, voilà, on a fait tout ça ensemble, voilà.